Bienvenue à l'épisode 26 de la French Connection. Cette semaine, je suis avec Vincent.
Salut tout le monde!
Et les autres nous ont pas vraiment donné signe, fait qu'on va être juste que les deux cette semaine. On va commencer par les Shameless Pug. ACFES, prochaine activité le 22 février avec Maître De Rico qui va nous parler de les étapes d'un incident de sécurité dans une perspective juridique. La SIC, 8 février, où Vincent va nous parler de la gestion des comptes à haut privilège associés avec l'information sensible, que tu disais?
On va dire plutôt l'information stratégique, parce que je ne voulais pas qualifier l'information. Toute information qu'on veut détenir est bonne à protéger. Fait que moi, c'est des trucs d'Audi que je donne pour faire le chien de garde, puis s'assurer que ce qu'on dit qu'on applique comme mesure de protection, ben on le fait réellement et que ça protège bien.
J'ai bien hâte d'avoir la conférence, puis en plus, on va faire un épisode spécial pour faire un récap de cette présentation-là en plus. Ensuite, le 13 avril, le CQSI qui s'en vient de l'événement important de la SIC où on va rassembler une foule de conférenciers super intéressants dans le cadre de la semaine numérique. Et finalement, ISACA, sa prochaine activité le 27 février avec la transformation des TI dans l'entreprise à l'époque de l'info nuagique, puisque c'est une réalité dans laquelle on vit tous maintenant et qui est assez incontournable. On va commencer avec la première nouvelle de Vincent, où Cisco a fait une annonce ou en tout cas une divulgation de correction.
Oui, en fait, cette semaine, Cisco a décelé dans plusieurs de ses appareils, vous verrez dans le lien, il y a une énumération justement d'appareils de protection firewall, entre autres, mais c'est surtout des appareils qui font la gestion du contrôle d'accès à distance sécurisé pour travailler de la maison, travailler de l'extérieur, etc. Alors, c'est ce qu'ils appellent une vulnérabilité de criticité 10, donc le plus élevé possible sur le Common Vulnerability Scoring System. Et puis, c'est une annonce qu'ils ont faite publique. Alors, les entités qui utilisent les produits Cisco, il y a des patchs qui sont disponibles. Faut faire attention. Le problème est à l'effet que présentement, on peut faire une attaque web qui permettrait de contourner justement les mesures de sécurité pour atteindre les appareils qui contrôlent les accès VPN et puis donner le contrôle total de façon...
Mais c'est un début d'année assez rock'n'roll avec Spec Meltdown, celle-là, nos infrastructures sont solidement touchées. Là.
Oui, effectivement. Mais écoute, c'est la surface d'attaque est relativement limitée. Il n'y a pas tant d'équipement que ça. Là, présentement, Cisco vient de faire son rapport justement sur la vulnérabilité, ce que ça peut faire. Mais il n'y a pas que les produits Cisco. Est-ce qu'on peut prétendre que les autres fournisseurs, les compétiteurs à Cisco ont possiblement le même problème? On le sait pas, mais on va demander à tous les sysadmins dans les entreprises, un, d'être vigilants, puis deux, ben, de bien tester justement les correctifs de sécurité, de les appliquer. Puis assurez-vous justement que vous n'avez pas été, vous n'êtes pas fait hacker avant l'annonce justement du problème.
Tout à fait, parce que généralement, ces vulnérabilités sont connues par le méchant underground souvent avant, puis quand il s'est rendu public, on est juste à la fin de la boucle.
Ouais, ben c'est la boîte de Pandore, hein? La cybersécurité, c'est une bébête vivante, c'est un mille pattes sur lequel il y a tout le temps des pattes qui poussent. Fait que c'est pas vrai qu'on peut donner une assurance sur une période ou quoi que ce soit. Faut constamment faire de la vigie. Mais on demande pas à tous les sysadmins de devenir des professionnels puis de se mettre dans la tête de valider toutes les méthodes de contournement, on s'en sortirait pas. Mais au moins qu'une compagnie sérieuse comme Cisco l'annonce, c'est déjà un bon pas. C'est une belle gestion d'incidents de sécurité. Ils ont attendu le bon moment. Ils ont des correctifs qui fonctionnent. Il s'agit juste de bien les appliquer puis de s'assurer que ça se déploie sans embûches au sein de vos entreprises.
Effectivement, très important. En plus que c'est des pièces d'infrastructure quand même assez significatives.
Oui, c'est justement le chien de garde, mais qu'on laisse l'autre bord de la grille pour mordre les méchants.
Hein? Oui, tant qu'il ne nous mord pas, ça va bien. On va enchaîner avec Microsoft qui va disons, se fâcher contre ceux qui vendent des faux produits de sécurité?
Bon, oui. Puis écoutez, un, je ne sais pas comment ils vont faire ça, mais je trouve que c'est vachement une belle initiative. Microsoft qui vend avec ses versions de Windows, en fait, qui inclut dans ses versions de Windows un Windows Defender qui est pas si mal comme solution logicielle pour une protection de base, qui fonctionne relativement bien. Bon, mais toutefois, il y a des compétiteurs, puis il y a des, on va dire, pseudo-compétiteurs qui inventent des fameux logiciels pour faire des détections spécifiques. On va parler, par exemple, d'un rançongiciel. On va parler d'un maliciel. Puis oui, vous m'excuserez, je parle français. J'aime bien les termes français, même si je connais les termes anglais. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Et puis, à partir du 1er mars cette année, il risque d'y avoir une mise à jour pour Windows Defender et qui va justement mettre des bâtons dans les roues sur les pseudo-logiciels qui prétendent être bien spécialisés. Et puis, ces pseudo-logiciels-là viennent souvent avec une version gratuite. Puis, il y a une forme d'analyse pour un peu vous attirer dans les mailles de leur filet, une pseudo-analyse qui produit un rapport désastreux juste pour vous faire peur. Et puis, la solution gratuite va prétendre corriger juste une portion, mais si on veut corriger l'entièreté du pseudo-problème, du vrai ou du faux problème qui est sur nos appareils, ben faut acheter des services supplémentaires, puis là, on sort la carte de crédit, on achète des bebelles sans savoir pourquoi, juste parce qu'on nous a fait un peu peur. Alors, Windows Defender, l'équipe Microsoft prétend que la mise à jour va être en mesure de détecter justement ces opérations malicieuses-là qui sont juste là pour nous faire peur puis dépenser notre argent d'une mauvaise façon. Alors, ben,
comme consommateur, je trouve que c'est une excellente idée, puis surtout comme support technique de la plupart de mon entourage, je trouve que c'est une excellente idée, que ça va réduire la probabilité que j'ai des gens dans mon entourage qui, sans le vouloir, se colorent dans le coin avec un logiciel dans lequel ils veulent juste se leur soutirer de l'argent.
Oui, puis ben, en fait, moi, je trouve ça un beau coup de Microsoft. C'est une belle marque de confiance. Là, ils veulent rehausser la confiance des consommateurs Windows envers leurs produits. C'est une belle chose. C'est probablement le produit le plus répandu sur la planète. Mais là, avec un outil supplémentaire, ben, tant mieux si sont en mesure de bloquer les fameux harceleurs.
Oui, puis c'est bien que les plateformes, parce que dans ce cas-ci, on parle de Microsoft qui fait un pas en avant, là, Apple aussi, en fait, de temps en temps aussi, puis Linux, dans une certaine mesure, qui aide les utilisateurs à se protéger eux-mêmes, que la plateforme elle-même devienne de plus en plus difficile à exploiter contre les méchants crosseurs.
Oui, effectivement. Alors, à c'est suivre bien. Pour ce produit, je pourrais pas être votre bête de cirque parce que la machine que j'utilise, c'est simplement Media Center, puis ça fait rien d'autre. Alors, j'installe rien sur cette machine-là. Mais Nicolas a promis d'essayer toutes sortes d'affaires puis de mettre de la cochonnerie sur ses appareils pour voir si ça
marche. J'ai pas de Windows, moi, je suis pas.
Non, on vous agace.
Arrête de dire des choses qui ne marchent pas. J'ai aucune affaire, ouais. J'ai aucune machine Windows, mais je connais des gens autour de moi qui sont des utilisateurs Windows, donc oui. De toute façon, la plupart de mes clients fonctionnent avec Windows, donc d'une façon ou d'une autre, ce genre de produit-là sera sous mon regard pour des raisons professionnelles. Si c'est pas personnel.
Excellent.
Yes. On va enchaîner avec le fait que tu amènes un cas pratique du RGPD où, dans le fond, quand on a un rançongiciel, il y a des conséquences assez dissuasives.
Oui. Puis écoutez, je vais vous le dire là. L'article que j'ai trouvé, c'est notre cher français Damien qui a écrit ça le 28 janvier dernier. Il l'a peut-être écrit avant, mais ça a été publié le 28 janvier dernier. C'est fort intéressant. Il s'agit en fait là jusqu'où le bras du RGPD peut aller. Le cas pratique est simple. Une clinique médicale où un employé a cliqué sur le lien qu'il ne fallait pas. Le malheur s'est répandu au sein du serveur de fichiers. C'est un rançongiciel, ransomware. Le mode de cryptage a démarré, puis, oups, trop tard. Bon, les conséquences, oui, elles sont graves. La clinique médicale, c'est pour soigner les gens, les faire vivre plus longtemps, leur sauver la vie, apaiser leurs douleurs, etc. Ça joue avec la santé. Et puis, à partir du mois de mai de cette année, le cas, par exemple, d'une clinique médicale à qui est arrivé un problème, la clientèle, étant donné qu'elle a été directement touchée, c'est pas du tout un dommage collatéral, c'est un dommage direct, ben, il pourrait y avoir une action collective et la clinique médicale ou toute entité à qui ça arriverait et qui aurait des dommages directs à leur clientèle, ben, pourrait se retrouver au banc des accusés et devoir répondre de leurs actes et puis subir la sentence prévue à cet effet.
Ouais, dans ce cas-ci, là, pour recontextualiser pour nos auditeurs, c'est dans le contexte français, puis c'est dans le contexte où ça touche des citoyens européens qui sont couverts par le RGPD. Malheureusement, citoyens de l'Amérique du Nord, nous n'avons pas ce bénéfice-là, mais si y a des citoyens européens qui sont dans vos bases de données à l'heure actuelle, vous êtes aussi devez vous conformer au RGPD. Donc, si dans une clinique médicale dans l'Amérique du Nord, qu'un citoyen européen qui est à l'intérieur et qui a un rançon logiciel, toute cette notion-là se touche. Puis je pense que d'un point de vue de notre côté de l'océan, on est un peu moins peut-être au courant de la ramification complète du RGPD. Là.
Oui, ah, je vais juste corriger un petit lapsus. C'est pas une clinique médicale, c'est un fournisseur. C'est le plus gros fournisseur au monde qui fait la gestion électronique, par exemple, des médicaments. C'est la compagnie Allscript et qui dessert 180 000 médecins, 2500 hôpitaux. C'est le petit lapsus que je voulais corriger. En fait, les mauvaises personnes auraient reçu dans toute cette foulée 55 000 $ en Bitcoin. Ici, c'est un article français, probablement les dollars, c'est des euros. Alors, ce qui est énormément d'argent, sauf qu'on n'est pas sûr si la compagnie a payé, mais cette compagnie-là se retrouve présentement dans l'eau chaude.
Oui, effectivement. Puis ça, je vais vous référer à l'épisode qu'on parle de RGPD avec Damien, qui démystifie un peu la partie de ça, mais c'est très intéressant parce que d'un point de vue protection du citoyen, disons, mettons, l'Union européenne a mis des dents assez importantes à ces règles. Qui va mettre en place des mécanismes qui ne laisseront plus n'importe quoi se passer. Ils vont pouvoir être coercitifs davantage d'ailleurs. Là. Puis dans le cas français, c'est la CNIL qui est le bras opérant pour application des sanctions qui sont associées avec ce genre de problème-là que tu mentionnes.
Ouais.
Effectivement. Là, on va flipper à quelque chose encore tout à fait intéressant en termes pas de ce qui est de fuite d'informations, mais une mauvaise gestion de la vie privée. Strava a rendu disponible sur Internet un heat map, c'est-à-dire une espèce de carte où on peut voir où son logiciel pour le suivi d'exercices physiques est le plus utilisé. Donc, tous les utilisateurs qui utilisent le logiciel Strava peuvent enregistrer leur parcours sur les bases de données de Strava. Ce qui se permet à ce moment-là de comparer, puis c'est un effet social très intéressant qui est amené avec l'utilisation de ce logiciel-là. Le problème, c'est qu'ils viennent de rendre disponible tout le contenu de leur base de données publiquement et des petits malins se sont rendus compte qu'il était possible de retracer des bases militaires américaines, dans ce cas-ci, parce que c'est sûr qu'on regarde un problème américain, mais c'est qu'il est probablement on pourrait retrouver des bases militaires de d'autres pays aussi ou des zones militarisées à l'heure actuelle où il y a des activités de Strava. Donc, le niveau de contrôle de l'information que Strava a faite est très discutable et a probablement mal informé ses utilisateurs de l'ampleur, en tout cas à quel point cette information-là pouvait être utilisée à des fins marketing et de promotion comme Strava a fait. Fitbit l'avait fait il y a plusieurs années en arrière. Puis on se rend compte que tous nos amis de Silicon Valley ont un peu de misère à comprendre que l'information qu'ils ont dans les mains elle a un certain conséquence sur la vie privée. Parfois peut être assez étonnante puis avec des ramifications beaucoup plus vastes que juste un plan de recherche ou des idées de partage d'informations de socialisation.
Oui, mais en fait, Moi, j'en veux pas aux concepteurs de logiciels parce que on peut pas être en mesure de se poser toutes les questions à l'égard d'avis privés ou de d'une éventuelle menace quand on veut fabriquer un logiciel qui fait notre tracé de jogging, qui fait notre tracé de vélo, etc., etc. Je pense qu'il n'y avait pas de mauvaise intention là-dedans. Puis malheureusement, effectivement, de rendre la base de données disponible, je pense que le problème a été à ce niveau-là. Ouais. On ne sait pas à qui vendre ça. Oui, les compagnies de marketing sont fortement intéressées par ça.
S'ils l'ont rendu disponible sur Internet, ce qui est encore pire que ce qu'on pourrait voir comme Google qui vend par en dessous nos informations aux autres, c'est vraiment une adresse, tu rentres là, la carte est encore là, j'ai vérifié, on est le 3 février, la carte est encore active, puis on voit tous les tracés, on voit tous les éléments comme ça. Puis il y a un petit malin, je pense, en Australie, qui a trouvé une façon de faire des requêtes à la base de données directe. Et on est capable de retrouver, de retracer qui, le nom de l'utilisateur, les froids, les dates, les heures, tout. Là. Puis on est capable de savoir qui a fait quoi quand. Ou partout dans le monde. Fait que c'est un peu troublant que cette information-là soit disponible. Je pense que les agences de renseignement doivent probablement être jalouses de la quantité d'informations qui est contenue dans ces bases de données-là.
Hey, arrête, ils doivent être en train de parachuter du monde justement sur le gestionnaire de la base de données pour débrancher ça. Je ne peux pas croire. Mais bon.
Mais en tout cas, la base de données n'est pas encore débranchée, fait que je ne sais pas s'il se passe comme ça. Je sais qu'ils ont été une convocation au Sénat ou au Congrès américain. Fait qu'ils vont devoir répondre de leurs actes, ou du moins d'un point de vue américain. Mais je pense que ça trouble un peu les choses. Dans le contexte spécifique militaire, là, l'armée a rappelé à ses membres que l'usage de ce genre de produit-là est interdit parce que ça a ce genre de ramifications-là. Puis ces informations-là peuvent découler. Fait que tout le volet social que ces logiciels-là apportent, ces bidules-là apportent, se retrouve à être perdu parce que ces compagnies-là ne sont pas capables de sécuriser ou d'utiliser ça de façon intelligente.
Bon, eh bien, à suivre sur ce. On va appeler ça un gros problème, là.
Ouais, ben c'est un gros fiasco, là. Fait qu'on va voir ce qui va s'en suivre dans les prochaines semaines, étant donné qu'ils ont été convoqués en audience devant. Le système politique américain, on va voir ce qui va en sortir. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est qu'ils n'ont pas encore mis la base de données hors ligne. Il est encore disponible. Fait que ça, c'est fascinant. Ouais.
C'est disponible, elle doit être copiée à quelque part, cette base de données-là. Fait qu'elle risque d'être en ligne longtemps.
Ouais, c'est ça, c'est pas mal fini.
Il y a possibilité qu'elle soit en ligne longtemps. Mais bon.
Et oui.
Je veux pas prétendre, mais je pense au pays.
Ah, dans ces conditions-là, il y a un manque de clairvoyance donc, de ces compagnies-là, puis ils ne mesurent pas à quel point la vie privée a des ramifications importantes. Alors, on va arrêter de bâcher sur ce travail. On va faire un petit suivi sur Spectre et Meltdown. Dans ce cas-ci, c'est deux nouvelles qui sont spécifiques à Spectre, où AMD a fait une annonce publique récemment sur le fait que sa prochaine génération de chips seront immunisés à une des deux variantes de Spectre et potentiellement aux deux variantes de Spectre éventuellement. Et en cela, il faut savoir aussi que AMD n'est pas susceptible à Meltdown. Il n'y a que Intel ARM et un autre qui est susceptible à ce genre de problème-là. Fait qu'eux autres ont déjà un effort. Je pense qu'on n'a pas nécessairement vu d'effort plus concerté que ça des autres fabricants pour, du moins public, pour dire qu'ils vont atténuer ça. Mais tout le problème sous-jacent à ça, c'est que c'est toutes des mesures d'accélération de performance qui vont devoir être atténuées. Fait que c'est à voir si ça va avoir des impacts. On se fait ressentir pendant longtemps sur ce genre de problématique-là. Puis la seconde nouvelle sur Spectre, c'est Microsoft a retiré une patch de microcode que Intel lui avait fournie sur la base que cette patch-là était buggée, mais solidement buggée. Et pouvait amener jusqu'à des problèmes de fonctionnement des ordinateurs. Donc, le microcode que Intel avait fourni à Microsoft pour permettre de corriger Spectre s'avère être un mauvais plan. Puis, selon ce que les analystes en ont sorti, c'est que Intel a essayé de trouver une manœuvre pour corriger le problème de Spectre sans avoir de perte de performance. Mais de toute apparence, les contorsions qu'on essaie de faire ont fini par avoir plus de problèmes que résoudre finalement le problème de Spectre lui-même.
Hey, ça veut-tu dire que cette patch-là a été distribuée, des utilisateurs l'ont installée, puis Microsoft l'a retirée via un autre système de patching?
Non, il l'a juste fait disparaître, de ce que j'ai cru comprendre. Fait que ceux qui ne l'ont pas encore appliqué, ça apparaîtra plus comme étant devant être appliqué, mais ceux qui l'ont déjà appliqué, je pense qu'il y a un bulletin de Microsoft qui explique qu'est-ce qui s'en suit, puis qu'est-ce qu'il faut faire avec ça pour résoudre les problèmes, s'il y a des problèmes qui sont associés à ce genre de choses.
Je vois, OK.
Mais c'est pas un problème permanent, c'est un problème de micro-cas, c'est-à-dire que celui-ci est chargé à chaque redémarrage de l'ordinateur. Donc, le retirer du kernel de Windows règle le problème, donc ça crée pas des dommages permanents. C'est déjà un moindre mal. C'est déjà. Et on va enchaîner avec une dernière et une très bonne nouvelle, dans ce cas-ci, un peu moins par le devinabilité des choses problématiques. Il y a un institut aux États-Unis dont je vais écorcher le nom si j'essaie de le prononcer, a rendu disponible un playbook en français. J'ai un peu de difficulté de traduire. C'est un livre de recettes, si on veut, pour les partis politiques dans l'ordre de campagne électorale pour se prémunir des problèmes de sécurité et toutes les mesures qui peuvent être prises pour limiter les problèmes. Cette guide-là a été rendu disponible pour ceux qui n'ont pas nécessairement les moyens de se payer du staff spécialisé en sécurité, ce qui est quand même pas nécessairement dispendieux, mais pour des plus petites campagnes ou des choses, peut-être si on regarde au niveau québécois, des municipales qui n'ont pas nécessairement tout l'argent pour se payer du staff permanent pour faire ça. C'est un bon guide, puis ce guide-là aussi peut être appliqué à plus vaste que des campagnes électorales où on donne quand même un bon nombre d'informations intéressantes et utiles qui peuvent être appliquées dans d'autres situations.
C'est pas pire, ça?
Oui. C'est des belles contributions, ça, pour aider les gens à se prémunir contre les problèmes.
T'as-tu mis la main sur le playbook?
Oui, il est disponible en ligne. Il va être mis dans les show notes, fait que les gens vont pouvoir le consulter. Je l'ai zappé que très rapidement pour voir le contenu. J'ai pas allé en très grande profondeur, mais il est accessible, il est facile de compréhension, puis il est facile de compréhension pour des gens qui ne sont pas en sécurité. Donc, il n'y a pas de barrière à l'entrée qui empêcherait les gens de l'utiliser, ce qui est en soi une très bonne chose parce qu'on a tendance des fois en sécurité d'être un peu hermétique dans notre vocabulaire. Clairement, en fait, pour les gens qui n'ont pas de maîtrise, de grande maîtrise de notre vocabulaire hermétique.
Ah, ben écoute, je trouve ça intéressant. Moi, je vais aller le consulter rapidement. Ça pourrait être intéressant, par exemple, pour un conseil d'administration, un comité d'audit?
Je ne sais pas dans quel contexte. C'est sûr que je vais le lire en profondeur dans les prochains jours parce que je trouve ça fort intéressant ce qui est sorti. Pour là, j'ai juste zappé voir assez m'assurer que le contenu, puis la nouvelle en avait parlé qui relatait ça, son contenu pour qu'on puisse en parler. Mais vraiment, l'applicabilité, j'ai aucun doute qu'on peut étendre ça beaucoup plus vaste que juste les campagnes électorales. Et probablement, ça a un vocabulaire simple pour qu'un conseil d'administration soit capable de comprendre les enjeux de sécurité.
Ben en fait, ce qui a attiré mon attention, c'est justement ça. Le fameux vocabulaire simple. Moi, c'est... Ah, on est en techno, moi je suis auditeur, faire des rapports. Bon, ça fait longtemps que je fais des rapports, c'est plus un défi comme avant, mais connaître son audience, c'est important. Puis si l'outil permet de mettre un vocabulaire plus verbeux, ben en fait rendre la technologie plus verbeux, plus vulgarisé, en fait, dans un langage
plus accessible, commun. Ouais.
Accessible, ben là, ça devient fort. Moi, ça risque de devenir un outil pour moi dans le cadre de mon travail. Mais je trouve que c'est une belle initiative, justement, là, ce playbook-là.
C'est très intéressant. Il y a de plus en plus d'organisations qui mettent disponibles des éléments, justement, pour les personnes qui ont un peu moins d'argent pour financer la sécurité. Fait que c'est une espèce de contribution à la communauté qui vaut la peine d'être soulignée.
Non, mais c'est excellent. Effectivement, c'est une bonne nouvelle, ça. Cool. Yep.
Fait que ça complète notre épisode début février, premier épisode de février. Donc, un mot de la fin?
Oui, Super Bowl demain. Buvez de la bière, mangez de la cochonnerie, puis profitez-en, ça va être excellent. Hey, vous irez voir la pub de Lexus avec Black Panther qui est sortie, est excellente. Une belle pub, vraiment arrogante, vraiment comme je les aime. Ça a l'air que Lexus Toyota a un budget colossal cette année justement pour des pubs. En fait, c'est ce que je disais tantôt, j'ai hâte de voir demain. Alors sur ce, bon Super Bowl et à la prochaine.
Cheers!